Chapitre 6. Le temps se maintenait au-dessus de l'étendue sans dôme des jardins du palais, chaud et ensoleillé. Cela n'était pas si courant. Harry se souvenait que Dorse lui avait un jour raconté dans quelles circonstances on avait choisi cette région pluvieuse aux hivers rigoureux. « En vérité, on ne l'a pas vraiment choisi », avait-elle expliqué. « C'était une propriété héréditaire de la famille morabienne, au tout premier temps du royaume de Trantor. Quand le royaume devint un empire, on comptait de nombreux domaines où pouvait séjourner l'empereur, stations estivales, résidences hivernales, pavillons de chasse, propriétés balnéaires. Et alors que la planète se recouvrait peu à peu de dômes, un des empereurs régnants séjourna ici et s'y plut tellement qu'il décida de garder le domaine à l'air libre. Et comme il finit par rester le seul, ce site devint un endroit à part. Cette particularité plut à l'empereur suivant, puis à son successeur, et au successeur de celui-ci. C'est ainsi que s'instaura la tradition. Et comme toujours, en entendant pareille anecdote, Seldon se prit à penser. Comment la psychohistoire aborderait-elle la question? Prédirait-elle qu'une zone resterait sans dôme tout en étant absolument incapable de préciser laquelle? Pourrait-elle même aller aussi loin? Pourrait-elle prédire qu'il resterait plusieurs zones sans dôme, ou au contraire aucune, et donc se tromper? Comment prendre en compte les préférences et les aversions personnelles d'un empereur qui se trouvait être sur le trône à l'époque cruciale et prenait une décision dans un moment de caprice, rien de plus? Ce genre de raisonnement menait au chaos et à la folie. Cléon Ier appréciait visiblement le beau temps.
« Je me fais vieux, Seldon, je n'ai pas besoin de vous le dire, nous sommes du même âge, vous et moi. C'est sûrement signe qu'on vieillit quand on n'a plus goût à jouer au tennis, ou à aller à la pêche alors qu'ils viennent de réempoissonner le lac, et qu'on préfère simplement déambuler dans les allées. »
Tout en parlant, il mangeait de petits fruits à coque, qui ressemblaient à ce que, sur l'hélicon natal de Seldon, on aurait appelé des graines de courge, mais en un peu plus gros et avec un goût moins délicat. Cléon les ouvrait soigneusement avec les dents, puis il les décortiquait de leur mince enveloppe avant de propulser l'amande dans sa bouche. Seldon appréciait modérément leur goût, mais, bien entendu, quand il s'en vit offrir par l'empereur, il les accepta et en mangea quelques-unes. L'empereur avait pas mal de coquilles dans la main, et il cherchait vaguement du regard un réceptacle quelconque pour s'en débarrasser. Il n'en vit pas, mais avisa un jardinier non loin de là, figé au garde-à-vous, comme il sied en présence de Sa Majesté impériale, la tête inclinée avec respect.
« Jardinier !»
lança Cléon. Le jardinier se précipita.
« Sire, débarrassez-moi de cela »
dit-il en déversant les coquilles dans la main du jardinier.
« Oui, sire. »
« J'en ai quelques-unes, moi aussi, Gruber. » ajouta Seldon.
Gruber tendit la main et dit presque avec timidité « Bien sûr, Premier ministre ». Il s'éclipsa en hâte et l'empereur le regarda s'éloigner avec curiosité.
« Vous connaissez le bonhomme, Seldon ?»«
Oui, tout à fait, sire. Un vieil ami. »«
Le jardinier est un vieil ami. Qui est-ce ? Un collègue mathématicien dans la dèche ?»
« Pas du tout, sire. Vous vous souvenez peut-être de l'anecdote. C'était à l'époque... » Il se racla la gorge, cherchant la façon la plus diplomate d'évoquer l'incident. « À l'époque où ce sergent a menacé ma vie, peu après que vous m'aviez fait l'insigne honneur de me nommer à mon poste actuel. »«
La tentative d'assassinat. »
Cléon leva les yeux au ciel, comme pour y trouver patience.
« Je ne sais pas pourquoi tout le monde a si peur de ce terme. »
« Peut-être, » dit Seldon apaisant, tout en se méprisant quelque peu de l'aisance avec laquelle il avait appris à manier la flatterie, « sommes-nous plus perturbés que vous par l'éventualité qu'il arrive quelque chose de funeste à notre empereur ?»
Cléon sourit avec ironie.
« C'est le moins qu'on puisse dire. Et quel rapport avec Gruber, c'est bien son nom ?»«
Oui, sire, Mandel Gruber. » Je suis sûr qu'il vous reviendra à l'esprit qu'un jardinier avait alors surgi, brandissant son râteau pour me défendre contre le sergent armé.
« Ah oui ! Et c'était notre bonhomme, ce fameux jardinier ?»«
Lui-même, sire. Je le considère comme un ami depuis ce jour. et je le rencontre presque chaque fois que je parcours le domaine. Je crois en fait qu'il veille sur moi, qu'il se sent responsable. Et bien entendu, j'éprouve de l'affection pour lui. Je ne vous le reproche pas. Puisque nous y sommes, comment va votre formidable épouse, le docteur Venabili? Je ne la vois plus guère. C'est une historienne, sire, perdue dans le passé. Elle ne vous effraie pas? Moi, elle me terrifierait. On m'a raconté la façon dont elle a traité ce sergent. On en viendrait presque à le plaindre. C'est pour mon bien qu'elle est devenue sauvage, sire, mais elle n'a pas eu l'occasion de le manifester récemment. Tout est bien calme. L'empereur chercha du regard le jardinier déjà loin d'eux. Avons-nous au moins songé à récompenser cet homme? J'y ai veillé, sire. Il a une femme et deux filles, et j'ai pris des mesures pour que chacune dispose d'une bourse pour l'éducation de ses enfants quand elle en aura. Fort bien. Mais il mérite une promotion. Est-ce un bon jardinier? Excellent, sire. Le jardinier en chef, Malcomber, je crois, je ne suis pas bien sûr du nom, se fait vieux et n'est peut-être plus tout à fait à la hauteur de la tâche. C'est qu'il est bientôt octogénaire. Croyez-vous que ce Gruber pourrait lui succéder? J'en suis certain, sire. Mais il aime son poste actuel. Il lui permet d'être dehors par tous les temps. Un bien étrange avantage pour un poste. Je suis sûr qu'il saura se faire aux tâches administratives. Et par ailleurs, j'ai besoin de quelqu'un pour étudier le renouvellement des jardins. Il faut que j'y réfléchisse. Votre ami Gruber est peut-être le candidat idéal. Au fait, Seldon, qu'entendez-vous en disant que tout était bien calme? Je voulais dire simplement, sire, qu'il n'y avait aucun signe de discorde à la cour impériale. La tendance inévitable aux intrigues semble avoir atteint son degré minimal. Vous ne diriez pas cela si vous étiez empereur, Seldon, et deviez affronter tous ces fonctionnaires avec leurs jérémiades. Comment pouvez-vous prétendre que la situation est calme alors que je reçois à peu près tous les 15 jours un rapport m'informant de tel ou tel incident grave ici ou là sur Trentor? Ce sont des choses qui arrivent fatalement. Je n'ai pas souvenance d'une telle multiplication des défaillances dans les années passées. Peut-être parce que ce n'était pas le cas, sire. Les infrastructures vieillissent, elles aussi. Effectuer les réparations nécessaires exigerait du temps, du travail et d'énormes dépenses. L'époque n'est pas favorable à une augmentation des impôts. Elle ne l'est jamais. Je crois savoir que les gens sont de plus en plus mécontents de ces pannes à répétition. Il faut que cela cesse, et vous devez y veiller, Seldon. Que dit la psychohistoire? Elle dit ce que dit le bon sens, que tout vieillit. Bon. Tout ceci m'aura complètement gâché une journée agréable. Je vous confie le problème, Seldon. Bien, sire, dit tranquillement Seldon. L'empereur repartit à grands pas, et Seldon constata que tout ceci lui gâchait également une journée agréable. Ses pannes affectant Trentor constituaient le choix qu'il avait repoussé. Mais comment l'empêcher et transférer la crise vers la périphérie? La psychohistoire restait muette là-dessus.